Le débat éco du vendredi avec derrière les petites fenêtres de notre calendrier de l'Avent, Thomas Piketty et Dominique Seux. Bonjour messieurs.
Bonjour Nicolas.
Pour ce dernier débat de 2021, on va s'arrêter sur une question économique qui a été centrale depuis l'été et qui risque de le demeurer en 2022. C'est le retour de l'inflation, de la hausse des prix. Le phénomène concerne tout le monde, vous, moi, les ménages donc, mais aussi les entreprises et les politiques publiques. Pour planter le décor, Thomas Piketty, on commence avec vous. Dites-nous ce qui explique cette hausse des prix et dites-nous si vous la voyez durer.
Alors, écoutez Nicolas, pour l'instant personne ne sait si ça va durer, mais moi je pense qu'il faut commencer à regarder ça de très très près et être extrêmement prudent. Aux États-Unis, on est sur les 12 derniers mois à presque 7% de hausse des prix, donc c'était jamais vu depuis 1982, hein, donc 40 ans. Alors en Europe, on est moins élevé, mais on est à 4,5-5% sur l'ensemble de la zone euro. Certains de nos voisins sont à 6% déjà sur les 12 derniers mois. En France, on est à 3%, mais vous voyez qu'on est sur des niveaux qui sont susceptibles de nous faire sortir de la phase, pour remettre les choses en perspective historique. Vous savez, l'inflation depuis le 19e siècle, il y a trois grandes phases. Avant la Première Guerre mondiale, au 19e siècle, c'est 0%, c'est l'étalon or. C'est même des fois un peu négatif fin 19e siècle parce qu'on trouve pas assez d'or par rapport à la croissance de la taille de l'économie mondiale. De 1914 à 1950, là, on est à 12% d'inflation moyenne en France. 1950-1980, on est à 8% dépendant des 30 glorieuses. Et depuis les années 80, on abaisse l'inflation à 2%. Et là, ça fait 40 ans, donc on s'est habitué à que ce soit 2%.
Oui. L'inflation. J'entends une petite inquiétude.
Oui, parce que si vous voulez, à partir du moment, moi je pense que les gouvernements, alors les banques centrales nous disent, vous inquiétez pas, ça va retomber à 2% d'ici 2023. Mais je pense que les gouvernements feraient mieux d'être assez prudents. Et en particulier, je pense que le gouvernement français fait sans doute une erreur en refusant un coup de pouce au SMIC début 2022, en poursuivant le gel de l'indice de la fonction publique. Parce que vous savez, le gel de l'indice de la fonction publique, quand vous avez une inflation à 1 ou 2% par an, c'est déjà pas très rigolo. Mais si vous êtes à 4 ou 5 ou 6%, que vous avez des loyers, des dépenses contraintes, là ça devient plus rigolo du tout. Et donc, il faut, voilà, je pense qu'il faut veiller là-dessus, vraiment comme du lait sur le feu, avant ouais. qu'il soit trop tard.
Dominique Seux, même inquiétude.
Bon, on viendra peut-être sur la France et le SMIC, mais oui. Le SMIC suit l'inflation de toute façon. Quand on parle de pouce, c'est au-delà de l'inflation.
Oui, avec retard.
Le paysage, pour commencer.
Est-ce que c'est durable? Alors, le paysage, il a été parfaitement planté. Et évidemment, c'est très difficile de savoir parce que les deux grandes banques centrales du monde ne disent pas la même chose. La Réserve fédérale américaine dit et a reconnu depuis le 30 novembre que ça n'était pas transitoire. Ils ont retiré le mot transitoire. La Banque Centrale Européenne, hier à 14h, a redit c'est une bosse, c'est transitoire. Alors ils le disent pour une raison particulière qui est ça permet de continuer les politiques souples, de faire un peu semblant que ce soit transitoire. Est-ce que c'est transitoire? À mon avis, il y a deux choses. Évidemment, il faut être très prudent, très modeste. C'est bon. Il y a deux choses. Je pense que sur l'énergie, c'est probablement transitoire. Évidemment, ça, beaucoup, c'est l'énergie qui est le booster, le driver, enfin l'élément central.
Le carburant.
Le carburant, voilà.
On parle ça en français.
C'est très bon.
Oui,
ça.
C'est pas mal.
Le carburant de la hausse des prix, hein, sur la hausse des prix de 3% environ en France, c'est plus 22% pour l'énergie. Donc c'est une composante essentielle. Ça ne durera, à mon avis, pas très longtemps. Pourquoi? Parce que les États-Unis tiennent en main le marché du pétrole aujourd'hui. On croit toujours que c'est l'Arabie Saoudite, en fait. Ça n'est plus l'Arabie Saoudite. Le premier producteur, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui ont des élections qui vont s'approcher, à un moment ou un autre, vont dire stop. Donc, en revanche, il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus durables et qui sont des vrais ingrédients d'une hausse des prix durable. Et j'en cite juste deux. Le premier, c'est le vieillissement global de la population mondiale qui fait qu'il y a moins de population active, et on le voit en Chine, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, et donc quand il y a moins de main d'œuvre, ben, à un moment ou à un autre, voilà. Et puis il y a par ailleurs, il y a les containers, il y a les puces électroniques, il y a beaucoup d'encombrements partout, donc ça va durer.
On parle, Thomas Piketty, du spectre de l'inflation, de la menace de l'inflation, de la spirale de l'inflation. L'inflation est-elle en soi un problème?
Bah, on peut trouver, certains pourraient dire, regardez, pendant les 30 glorieuses, il y avait 6, 7, 8% d'inflation par an, et comme les salaires augmentaient de 5% par an, en plus de l'inflation, tout allait bien. Sauf que, voilà, ça dépend un peu du système d'indexation des salaires, ça peut créer quand même beaucoup d'injustices, c'est-à-dire que suivant qui est ajusté à quel moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, si là vous pouvez avoir des situations de perte de pouvoir d'achat qui sont extrêmement, extrêmement douloureuses. Il faut aussi faire attention, quand l'inflation recommence, à pas en sortir trop violemment, parce qu'au début des années 80, on a voulu en sortir très violemment en augmentant les taux d'intérêt trop vite, et on a créé une récession gigantesque avec plein d'effets en cascade sur la planète, sur la crise de la dette, d'ailleurs beaucoup plus grave dans les pays pauvres que dans les pays riches. Je voudrais dire, aujourd'hui, on parle beaucoup du miracle des taux d'intérêt bas dans les pays riches. C'est en partie une rente qu'on a vis-à-vis des pays pauvres qui, eux, empruntent à des taux extrêmement élevés alors qu'ils auraient besoin de pouvoir emprunter à des taux plus faibles. Donc, dans tout ça, il y a des répercussions internationales très fortes. Si on prend une perspective historique que je prenais tout à l'heure, l'inflation au cours du XXe siècle, elle a suivi des épisodes, bon, les deux guerres mondiales, mais des épisodes de très forte dette publique où, pour résumer, on ne savait pas très bien comment rembourser la dette publique. La Banque centrale avait beaucoup prêté aux États et ça a créé, à la sortie des guerres, beaucoup d'inflation qui ont contribué à se débarrasser de cette dette publique. Alors certains pourraient dire, aujourd'hui, finalement, on a augmenté la dette publique au cours des dernières décennies, les banques centrales ont commencé à racheter plein de dettes publiques, il va falloir éponger tout ça. Je pense que ce serait oublier les dégâts en termes d'inégalité, de redistribution, et oublier qu'après la Seconde Guerre mondiale, certains pays, notamment comme l'Allemagne, qui avait été très traumatisé par l'inflation des années 20, qui avait s'était débarrassé de la dette publique, mais avait créé beaucoup d'inégalités, ont inventé d'autres façons. Donc on a déjà eu ce débat, mais des prélèvements exceptionnels sur les plus hautes fortunes privées en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, qui sont quand même des façons, disons, beaucoup plus justes de se débarrasser de la dette publique. Et à un moment, on va avoir besoin d'avoir ce débat sur qui va payer la dette publique. On a fait comme s'il suffisait de créer de la monnaie. À un moment, l'idée que personne n'aura à payer, il va falloir regarder ça en face.
Globalement d'accord avec Thomas. Alors, généralement, on dit un peu d'inflation, c'est bien. Voilà. Trop d'inflation, c'est pas bien. Il faut que le dentifrice rentre dans le tube. Enfin, on utilise ce genre de formule assez usuelle. Les entreprises, du manière générale, aiment qu'il y ait un peu d'inflation. Ça met de l'huile dans les rouages. Personne ne sait très très bien ce que ça veut dire, mais on comprend quand même. L'inflation, la hausse des prix, c'est très bon pour les débiteurs, les emprunteurs, c'est mauvais pour les épargnants. Alors on peut se dire, ça rééquilibre les choses. Il faut se souvenir, et quand on parle des questions sociales, que celui en France qui a commencé à dire « attention, l'inflation est un problème pour les bas salaires notamment », c'est Pierre Bérégovoy. Ça remonte il y a très très longtemps. C'est lui qui, homme de gauche, a dit « attention, il ne faut pas se tromper sur les vrais perdants ». Aujourd'hui, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura un effet d'entraînement sur les salaires. Alors, c'est à la fois une nécessité, parce que sinon, il y a de la perte de pouvoir d'achat, et un gros risque.
La fameuse spirale.
Et donc, on est entre les deux. 5%, c'est vrai que l'Europe, c'est 4,9%. Bon, imaginons que ça va retomber à 3-4%. Ça n'est pas rien. C'est-à-dire, en quelques années, vous pouvez... Mais la Banque Centrale Européenne, elle pense surtout à l'endettement des États en ce moment. Et donc l'arbitrage qui doit être fait par elle, c'est tous les débats qui ont eu lieu hier à Francfort, et on sait que l'Autriche, la Belgique et l'Allemagne ont affiché leur désaccord avec ce qui a été décidé à la majorité par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, elle pense au risque d'éclatement de la zone euro, au risque sur les dettes publiques, et elle dit « moi je pense aux États et au risque sur la dette ». Attention, on lui demande aussi de penser à notre pouvoir d'achat.
Un mot sur la BCE, et puis on s'arrête, Thomas, avec vous, sur la France, sur la question du pouvoir d'achat. On sait que le thème est très débattu dans la campagne électorale. BCE et France.
Vous savez, on dit la Fed a déjà annoncé qu'elle allait resserrer les choses, mais pour l'instant, les augmentations de taux d'intérêt envisagées par la Fed restent limitées. C'est-à-dire la Fed envisage de remonter à 1 ou 2% de taux d'intérêt. Alors la BCE, pour l'instant, n'a pas fait les mêmes annonces, va certainement suivre dans ces eaux, mais si vous avez une inflation qui est à 3, 4 ou 5 et que vous avez des taux d'intérêt à 1 ou 2, ça veut dire qu'en fait, vous continuez d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Et alors, la question, c'est combien de temps ça peut durer cette situation? C'est-à-dire que, d'abord, ça indique que les acteurs du secteur privé n'ont pas des projets d'investissement faramineux et que ce serait peut-être le moment pour le secteur public d'investir plus dans la transition énergétique, dans la formation, on en a déjà parlé. Ça montre aussi cette situation internationale où il y a toute une partie d'épargnants du reste du monde qui finalement sont rassurés de placer leur argent, y compris à taux très faible, chez nous. Donc c'est la rente dont je parlais tout à l'heure. Mais ça peut pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que les Européens, les Français prennent conscience du fait que face à une dette publique de ce niveau niveau-là. Il y a d'autres solutions que de grignoter le pouvoir d'achat de ceux qui ne sont pas protégés contre l'inflation pour se débarrasser de la dette publique. Donc, il va y avoir cette question de la mise à contribution des plus favorisés. Il va falloir repousser, je pense, une partie des dettes publiques dans le temps, celles qui sont en particulier actuellement sur le bilan de la BCE. Donc, tout ça, il va falloir en parler. C'est plus compliqué que laisser les prix filer.
Pour l'instant, les banques centrales n'appuient pas vraiment sur le frein, sauf à l'exception de deux banques centrales, la Norvège, et la Banque d'Angleterre, qui, pour la première fois, à augmenter les taux d'intérêt, il y a. Mais pour l'instant, les autres disent, on va le faire. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là. Sur la question sur la France, l'INSEE a sorti sa note de conjoncture, ses prévisions conjoncturelles cette semaine, et dit, attention, au premier semestre 2022, il y aura une baisse du pouvoir d'achat. Mais il y avait eu une hausse, en fait, en 2021, qui est relativement forte, qui est de,
je l'ai noté,
1,8% par unité de consommation, évidemment sur des moyennes, et il y aurait une baisse de 0,5 au premier semestre 2022. Donc, le pouvoir d'achat n'est pas en moyenne, entamé par ce qui s'annonce au premier semestre 2022.
Ouais, je vous dis, les salaires qui sont gelés nominalement, il y en a beaucoup, parce que voilà, qui n'ont pas une revalorisation qui est prévue à
dans
ce moment-là.
Dans la plupart des entreprises, c'est entre 2 et 4, ce qu'on appelle les NAO.
Les NAO, allez demander à tout le monde.
Les négociations annuelles obligatoires, ça va être entre 2 et 4 en janvier.
Non, il y a beaucoup de salaires qui vont rester les mêmes nominalement en euros, et qui, sur une inflation de 3-4% l'an prochain, je pense que le gouvernement devrait être beaucoup plus prudent.
16% annoncé dans hôtellerie-restauration.
Second sujet rapide ce matin, j'aimerais vous entendre, messieurs, sur le préavis de grève qui a été levé in extremis hier à la SNCF. Il y aura des perturbations aujourd'hui, mais le trafic sera normal sur tous les axes dès demain. Est-ce que ce conflit qui aurait pu affecter les départs en vacances vous a choqué, Dominique ?
Ah oui, profondément. Vraiment, il y a 50 000 personnes qui se retrouvent sur le carreau et sans alternative, ou qui doivent voir se bricoler, inventer quelque chose. On est dans une situation où la grève rituelle d'avant Noël, des week-ends de départ par quelques syndicats de la SNCF, c'est pas le principe de la grève, c'est la façon dont ça s'est passé, parce qu'il faut quand même raconter. C'est-à-dire que les syndicats sont allés voir, deux syndicats sont allés voir la direction en disant « nous voulons 300 euros de prime ». Et puis quand la direction a dit oui, ils ont dit « non, non, c'est 600 ». Quand la direction a finalement dit oui, 600, ils ont dit « ah ben non, c'est 600 fois 2 ». Donc on a un système, il ne peut pas avoir de confiance, et il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des changements de statut, que les gens soient embauchés en contractuel. C'est un dévoiement, et je pense notamment aux 50 000 personnes qui se retrouvent sur le carreau.
Et vous, Thomas Piketty?
Oui, mais Dominique, bon, franchement, si vous voulez changer votre salaire avec celui des cheminots, allez-y, mais moi je pense qu'il faut quand même un peu de décence, regarder les salaires dont on parle. Si la prime avait été accordée plus tôt, si la prime de 600 euros avait été accordée plus tôt, il n'y aurait pas eu, le trafic aurait repris avant. Donc moi je pense qu'il faut mettre ça dans la perspective aussi de la discussion qu'on a eue avant, c'est-à-dire on a des prix de l'énergie, des dépenses contraintes sur les loyers qui poussent. Il faut regarder concrètement les salaires des uns et des autres, Dominique. On sort d'une période, d'un quinquennat, où quand même les revenus...
Il pointe une méthode, il n'a pas parlé du fonds salarial.
Il faut regarder des deux côtés, il faut regarder aussi la direction, il faut regarder la négociation.
Alors, quelle est la hausse de salaire qui a été décidée ?
Là, il y a une nouvelle prime de 600 euros qui a été décidée.
La hausse, la négociation.
Mais Dominique, regardez les
salaires... Plus 2,7, donc on est complètement dans le sujet que nous avons abordé auparavant. Plus 2,7, ça
on est face à un gouvernement qui a donné une hausse de 10% de pouvoir d'achat sur les 0,1% des revenus les plus élevés au cours des 4 dernières années. C'est-à-dire que les personnes au-delà de 10 000 euros par mois, et encore plus au-delà de 30 000 euros par mois, ont eu une hausse de pouvoir d'achat de 10% de la part de ce gouvernement. Donc, si vous voulez, il y a toute cette ambiance autour du pouvoir d'achat qui fait que les gens qui sont à 1 000 ou 2 000 ou même parfois un peu plus se disent, attendez,
pourquoi moi... Et la grève de veille de départ en vacances, ensuite, ça vous choque pas sur la méthode?
Manifestement, je pense plus aux 50 000 personnes qui souhaitaient, après une année quand même épouvantable, partir en vacances, qu'ils doivent aujourd'hui, dans les heures qui viennent, trouver.
Mais si la prime avait été accordée plus tôt, il n'y aurait pas eu ça. Mais au-delà de ça, il y a des enjeux sur la SNCF qui sont encore plus importants. On a un besoin d'investissement dans les réseaux de la SNCF, non seulement dans les lignes TGV, mais dans les lignes régionales. Mais oui, mais ça fait partie aussi du sujet. C'est-à-dire que là, on s'apprête à avoir une ouverture à la concurrence dont les effets sont très discutables. C'est-à-dire,
moi, on va en parler dans le journal de 8 heures.
Oui, quand on pourra discuter de ça. Moi, j'entendais des arguments du président de la SNCF qui disait on va avoir la concurrence parce que nous, on aura plus de trains, les autres moins. Mais en fait, l'interopérabilité des trains, c'est une bonne chose. Et le fait d'avoir cette concurrence, est-ce que ça va vraiment être utile? Il va falloir y revenir.
Contour et alentour.
Le TGV de 8 heures doit partir à l'heure, messieurs. Donc, je vous remercie. Et je vous dis rendez-vous en 2022 pour les prochains débats éco. France Inter.